18h.
Pas ce que j'espérais, mais je savais que ça allait se passer comme ça. Parce que tout était fermé aux alentours, tout le monde se recroqueville et forcément, ça pète.
Le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes marqué par des violences à Paris, principalement concentré place d'Italie, d'où devait partir une manifestation finalement annulée. Nous serons sur place. Vous entendrez aussi le préfet de police de Paris qui assume d'avoir encerclé les éléments les plus radicaux. Situation nettement plus calme en région.
Les agents d'Enedis toujours en cours d'intervention en région Rhône-Alpes, alors que 145 000 foyers étaient encore privés d'électricité en début d'après-midi.
Ce soir, on va être à peu près à 70% des clients qui ont été réalimentés. On n'a pas de vision précise pour dire à quelle date exactement tous les clients seront alimentés.
Et puis quand la musique classique nous interpelle sur le réchauffement climatique, concert étonnant ce soir à Hambourg avec les 4 saisons de Vivaldi revisitées.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h dans votre grand journal. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Tout le monde se demandait, Fabienne Lemoyle, quelle tournure allait prendre ce premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes avec près de 200 appels à manifester sur tous les réseaux sociaux. Il y a un an, on vous le rappelle, ils étaient 282 000 à travers la France, principalement rassemblés sur des ronds-points.
Des ronds-points nettement moins occupés aujourd'hui en région. À Paris, ce sont les violences principalement concentrées place d'Italie avec des casseurs que l'on retiendra. Place d'Italie, d'où devait partir une manifestation autorisée en début d'après-midi, finalement annulée par la préfecture. Théo Manval, vous êtes aux abords de cette place dans le sud de la capitale. Est-ce que le calme est revenu ce soir ?
Oui, la circulation a même repris, Fabienne, mais sur une place saccagée. Le sol est jonché de morceaux de pierre, de restes de barricades brûlées. Tous les abribus ont été fracassés, des voitures incendiées, les vitrines du centre commercial brisées. Un déchaînement de violence qui a commencé en fin de matinée, quand les manifestants ont commencé à se rassembler pour un cortège autorisé. Un groupe d'ultra-radicaux, vous l'entendez, a alors commencé à semer le chaos sous les yeux de Bérangère et Bruno.
C'est parti comme ça d'un coup, on ne sait même pas pourquoi. Nous, on était dans un petit coin et on a vu que ça s'est... Il y avait des gaz partout.
C'est pas ce que j'espérais, mais je savais à 200% que ça allait se passer comme ça.
Pourquoi ?
Parce que tout était fermé aux alentours et forcément, bah, tout le monde se recroqueville et forcément, ça pète.
Du coup, la manifestation autorisée est finalement interdite par les autorités et la situation va rester tendue plusieurs heures. Les affrontements se multiplient, les grenades de désencerclement répondent aux jets de pavés dans un nuage de gaz lacrymogène comme j'en ai rarement connu, Fabienne. Et devant surtout l'incompréhension des manifestants pacifiques qui n'ont pas eu le droit de quitter la place.
Moi j'aimerais me manifester surtout, c'était le but premier de notre venue à tous quoi. Et là on est bloqué, on doit rester sur la place. Et quand on est sur la place, vous voyez, on nous gaze. Là je pense que c'est l'aboutissement de la négation de la liberté de manifester.
Alors deux scènes témoignent en tout cas de la violence des éléments radicaux de cet après-midi. Les pompiers d'abord, venus éteindre les barricades, ont été pris à partie et caillassés. Et puis surtout ces deux policiers poursuivis par des black blocs qui n'ont dû leur salut qu'à la porte ouverte d'une laverie dans laquelle ils ont pu se réfugier.
Théo Manval aux abords de la place d'Italie.
Alors à 15h, le préfet de police de Paris, Didier Nallement, a pris la parole pour expliquer sa stratégie par rapport aux manifestants les plus radicaux. Écoutez.
Il est en effet de ma responsabilité que les individus qui veulent détruire ne puissent se répandre à l'intérieur de Paris. J'ai donc décidé de fixer cette manifestation place d'Italie. Et les individus qui la composent seront progressivement interpellés. Et j'encourage ceux qui sont encore de bonne foi au sein de cette manifestation à en sortir le plus rapidement possible. Nous avons ouvert un couloir de sortie en direction de l'avenue d'Italie, qu'ils l'empruntent sans délai.
On le voit donc, le préfet de police de Paris assume clairement d'avoir fixé, comme il dit, les plus radicalisés qui voulaient en découdre avec les forces de l'ordre sur la place d'Italie pour éviter qu'ils ne se déplacent dans Paris. Nous sommes avec Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Salomé, concrètement, comment tout cela s'est déroulé ?
Eh bien, d'après nos informations, il y avait à la mi-journée sur le point de départ de cette manifestation, l'une des deux déclarées et autorisées aujourd'hui, 5 équipages de la préfecture, une unité de CRS et un canon à eau. L'essentiel des moyens mobilisés était concentré autour des Champs-Élysées, le point théoriquement le plus sensible. Or, tous les ultras se sont donc retrouvés place d'Italie. Il y a eu les premières violences, un début de saccage, puis la manifestation a été donc interdite sur décision du préfet et la place entièrement bouclée. D'après les estimations des services spécialisés, il y avait là, en plus des manifestants classiques, quelques 400 ultra-jaunes, ces gilets jaunes les plus virulents, et une centaine de membres de l'ultra ultra-gauche. Après 3 heures d'usure et d'affrontements sporadiques dans un air saturé de lacrymogènes, comme l'a décrit Théo à l'instant, le bilan des interpellations est de, à l'instant, 113 interpellations cet après-midi. Et nous aurons tout à l'heure dans la soirée le nombre de gardes à vue qui en ont suivi.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1 qui nous dit donc à l'instant 113 personnes interpellées à Paris et notre reporter Jean-Gabriel Bourgeois qui nous signale une manifestation sauvage aux abords des Tuileries avec un cortège de 200 à 300 personnes.
Oui, comment les forces de l'ordre ont-elles géré ces manœuvres alors que nous avons d'autres tensions dans le quartier des Halles à Paris? Nous en parlerons dans un instant avec le secrétaire général d'unité SGP Police Force Ouvrière, Yves Lefebvre, l'un de nos invités dans ce grand journal. Situation à Paris d'un côté. C'est fait. Maintenant, direction Nantes, Fabienne Lemoyle, pour voir comment la mobilisation des Gilets jaunes se traduit en région, pour le coup, pour ce premier anniversaire.
Eh bien, Nantes, ça a pris la forme d'une manifestation qui s'est globalement déroulée dans le calme, avant une dispersion marquée par des heurts. Un cortège que vous avez suivi pour Europe 1, Renan Coquelin, et on peut dire que les Gilets jaunes avaient répondu présent.
Oui, effectivement, ils étaient autant qu'il y a un an lors de la première mobilisation. Ici à Nantes, le rendez-vous était donné en début d'après-midi, place du commerce en plein centre-ville. Les banderoles et les slogans criés à tue-tête sont les mêmes depuis 12 mois, car rien n'a changé, raconte Brigitte, toujours très en colère.
Quand est-ce que les démocrates de ce pays vont se réveiller? Quand est-ce que les intellectuels vont se réveiller? Les gens crèvent! J'en peux plus, moi.
Émotion très vive dans le cortège, encadré par un nombre important de forces de l'ordre qui contenaient la manifestation par des tirs de grenades lacrymogènes. Claire Gilet jaune de la première heure est heureuse de voir que le mouvement arrive encore à mobiliser. Seule déception, elle espérait une convergence des luttes.
Un peu déçue que les syndicats, les étudiants ne soient pas présents, mais j'espère que du coup ils sont effectivement sur Paris. Mais en tout cas, on est là.
2 heures plus tard, la situation a commencé à se tendre lorsque la manifestation est revenue à son point de départ, c'est-à-dire en plein centre-ville de Nantes. On a vu des murs tagués, des feux de poubelle et des panneaux publicitaires saccagés. Par précaution, quelques commerçants ont baissé les rideaux de leurs magasins. Le cortège s'est ensuite peu à peu dispersé sous de nombreux tirs de grenades lacrymogènes.
Renan Coquelin, à Nantes pour Europe 1, notez qu'à Montpellier, ils étaient plus de 1500 à défiler et que la vitre d'une permanence du député La République En Marche, Patrick Vignal, a été brisée et la façade taguée.
Europe 1, 18h07, la suite du journal. Fabienne Lemoyle, Wendy Bouchard. À la une, toujours 145 000 foyers privés d'électricité en début d'après-midi en région Rhône-Alpes après les chutes de neige de jeudi dernier.
Et sur le terrain, près de 2000 agents de NIDIS qui sont mobilisés pour rétablir au plus vite le courant. Olivier Jarret, responsable en Auvergne-Rhône-Alpes, vient de faire le point avec Sophie Echen.
On a eu des difficultés assez importantes dans un premier temps pour pouvoir accéder aux ouvrages pour faire les premières manœuvres. Beaucoup de routes, notamment dans des secteurs accidentés comme en Ardèche, qui étaient soit coupées par la neige, soit coupées par des arbres qui étaient tombés sur la route. Ce qui a un petit peu rendu délicat nos premières interventions. Ce soir, on n'a pas fait la dernière situation, mais on va être à peu près à 70% des clients qui ont été réalimentés. On fait le maximum pour rétablir un maximum de clients dimanche soir, mais il restera encore des poches non alimentées. À l'heure actuelle, on a des dégâts très importants et on n'a pas de vision précise pour dire à quelle date exactement tous les clients seront réalimentés.
Et puis notez aussi le trafic SNCF toujours perturbé dans la région. La ligne TER Valence-Grenoble interrompue jusqu'à mardi. Celle entre Lyon et Grenoble jusqu'à lundi. Et pour Valence-Gap, le trafic devrait être rétabli demain.
On l'entendait un tout petit peu en préambule de ce journal quand la musique classique nous interpelle sur le réchauffement climatique. Et bien ce sera le cas ce soir lors d'un concert à la Philharmonie de l'Elbe à Hambourg en Allemagne.
Et bien oui, imaginez Wendy les 4 saisons de Vivaldi revisitées pour nous sensibiliser au dérèglement climatique. Ou plutôt tendez l'oreille aux explications de Thierry Geffrotin.
Voilà comment Vivaldi a mis le printemps en musique. Dans la version actualisée, le contraste entre le printemps et l'été s'estompe. Les notes imitant le chant des oiseaux ont disparu et les passages harmonieux deviennent chaotiques. Ces nouvelles 4 saisons, on les doit à une équipe composée d'informaticiens et d'arrangeurs musicaux. Un travail minutieux mêlant l'art et la science. Les données climatiques ont été fournies par des instituts de recherche et des agences de l'environnement. La nouvelle partition prend donc en compte l'augmentation de la température mondiale, la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes et leurs conséquences, notamment l'extinction de certaines espèces d'oiseaux et d'insectes. En 1725, Vivaldi avait joint à sa partition des poèmes qu'il avait écrits lui-même et qui décrivaient la nature, ce qui donnait par exemple « Voici le printemps que les oiseaux saluent d'un chant joyeux. Les quatre saisons 2019 sont nettement moins bucoliques. »
Thierry Geffrotin. C'était le journal de Fabienne Lemoyle qu'on retrouve demain pour la présentation du journal de midi. Merci beaucoup Fabienne, à demain.
Bonne fin de journée avec nous sur Europe 1, il est 18h10.